Europe 1, il est 8h.
C'était qu'une mascarade, quoi. On y a cru, et encore un gouvernement assez naïf pour prêter autant d'argent à ce repreneur. Je ne comprends pas.
L'amertume des ex-salariés de Whirlpool, un an après le fiasco de la reprise de leur usine, ils attendent de pied ferme le président qui arrive aujourd'hui à Amiens. Emmanuel Macron doit aussi rencontrer des étudiants en colère.
Autre mécontentement, celui des maires de France. L'opération Reconquête a-t-elle porté ses fruits? Hier, le chef de l'État les recevait à l'Élysée. Justement, votre invité politique à ce sujet, Sonia.
Il était aux côtés d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Il préside l'association des maires de France. François Baroin nous dira si l'opération rabibochage est vraiment en marche et si lui-même est en route pour 2022.
Un demi-million de Français qui ont réservé des actions françaises des Jeux, c'est énorme. Il n'y en aura pas pour tout le monde, mais tous les petits souscripteurs seront satisfaits. Promesse du ministre de l'Économie.
C'est un vrai choix politique. Privilégier les petits souscripteurs et privilégier les épargnants français plutôt que les institutionnels.
Le gouvernement espère aussi que ce sera un succès. L'application mobile Mon Compte Formation, lancée dès aujourd'hui, elle doit permettre aux Français d'accéder plus facilement à la formation professionnelle. On vous en dit plus dans ce journal.
Enfin, près de 18 ans d'attente et un procès qui s'ouvre aujourd'hui aux Assises de la Somme. Celui du meurtre d'Élodie Kulik, l'horreur d'un enregistrement de ses derniers instants. Enregistrement qu'a pu écouter son père.
J'ai voulu l'entendre, savoir exactement quelles ont été ses dernières paroles et puis me rendre compte de l'horreur. C'est terrifiant à écouter.
8h02 sur Europe 1. Excellent réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk.
Emmanuel Macron en terre connue, mais pas conquise. Le président sera à Amiens aujourd'hui, déplacement dans sa ville natale. D'abord à la rencontre d'étudiants qui se mobilisent contre la précarité. Et puis demain avec d'anciens salariés de l'usine Whirlpool.
Vous vous en souvenez, cette usine qui était devenue le symbole d'une lutte d'ouvriers lors de l'entre-deux-tours de la présidentielle.
Oui, il y a un an, le projet de reprise avait été soutenu par le président Macron. Aujourd'hui, le site est pratiquement à l'arrêt. Écoutez l'amertume des ex-Whirlpool qu'a rencontré notre correspondant Lionel Gougelot.
On nous avait fait miroiter certaines choses, on pouvait se dire que ça allait marcher.
Rien, ça ne valait rien, du papier, c'est tout.
À peine plus d'un an après les promesses électorales, les anciens de Whirlpool comme Fabrice Sinoquet se sont vite rendus compte que le projet industriel du repreneur n'avait en fait aucune chance de succès.
On n'a rien vu naître dans cette entreprise-là. Pas de matière première de rentrée, pas de produit fini de sortie, c'était qu'une mascarade, quoi. On y a cru, et encore un gouvernement qui est capable, assez naïf, pour prêter autant d'argent à ce repreneur. C'est incroyable, quoi. 4 millions d'euros. L'argent du contribuable en sorte, je ne comprends pas.
On s'est fait berner, mais l'État aussi, affirme Tonio, ancien délégué CGT, qui compte bien demander demain à Emmanuel Macron pourquoi l'État a soutenu ce repreneur, Nicolas Decailleux, sans un minimum de garantie.
Il a une grosse responsabilité parce qu'il a cautionné. Pour un président, tu ne peux pas cautionner. Tu ne peux pas cautionner des choses pareilles. Aujourd'hui, Nicolas Decailleux, il est terré dans un petit trou. Il ne veut même plus parler à personne, mais il s'en est mis plein les poches. Et il s'est barré avec l'argent du contribuable. Je suis désolé, demain, il faut qu'il rende tout cet argent qu'il a pris aux ouvriers qui sont aujourd'hui quasiment tous au chômage, quoi.
Des salariés toujours engagés dans des procédures judiciaires pour dénoncer les conditions de leur licenciement, mais aussi un projet de reprise qui, selon eux, n'était que factice. Amiens, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et on reste à Amiens ce matin sur un tout autre sujet, vous allez le comprendre, avec l'ouverture du procès de l'affaire Élodie Kulik, près de 18 ans après sa mort.
L'enquête sur le viol et le meurtre de la jeune banquière est longtemps restée dans l'impasse. Deux suspects identifiés, l'un est mort, l'autre comparé ce jeudi devant les assises de la Somme, un moment bien sûr très attendu par le père de la victime qui a pu écouter les derniers instants de sa fille lors de son appel à l'aide aux pompiers.
Moi, l'enregistrement, je le connais. J'ai voulu l'entendre, savoir exactement quelles ont été ses dernières paroles et puis me rendre compte de l'horreur. On distingue bien qu'il y a au moins deux voix. Il y a un chef, pour moi c'est Bardon, et il y a un exécutant. La voix d'Élodie, ce sont surtout les cris. C'est terrifiant à écouter. On a un expert qui estime à 87% qu'il s'agit de la voix de Bardon. Pour moi, il n'y a aucun doute, c'est bien Willy Bardon. J'ai eu l'occasion de lui faire face lorsqu'on a procédé à une mise en situation sur les lieux où on retrouve le corps d'Élodie. Croyez-moi, il a toujours baissé les yeux. Il ne s'est jamais tourné vers moi. Pourtant, ça aurait été l'occasion rêvée, puisqu'il se dit innocent, de m'adresser la parole en me disant « Écoutez, monsieur Kulik, j'y suis pour rien ». Il ne l'a pas fait, donc pour moi, je le condamne.
Le procès de Willy Bardon, qui clame son innocence et qui encourt la réclusion criminelle à perpétuité, il doit s'étendre sur 10 jours, jusqu'au 4 décembre.
Souvent peu connu et peu utilisé, le droit à la formation dans l'entreprise va-t-il enfin décoller? Le gouvernement lance une application mobile intitulée Mon Compte Formation, un nouveau site internet aussi pour tenter de démocratiser démocratiser la pratique.
Bonjour Bertrand Martineau.
Bonjour.
Vous êtes économiste chez CSI Saint-Honoré, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. Tout d'abord, dites-nous à qui s'adresse ce genre d'application, Mon Compte Formation ?
Alors, il s'adresse à tous les actifs, hein, qu'ils soient indépendants, salariés, du public ou du privé, et également aux chômeurs. Donc 28 millions de personnes à peu près.
Sur le papier, ça a l'air intéressant, mais concrètement, comment l'utiliser ? On imagine, à nos auditeurs qui nous écoutent, un salarié tout seul devant son appli. Franchement, ce n'est pas l'idéal.
Bah, c'est une appli qui facilite fortement la gestion donc, de sa formation, parce qu'il permet d'acheter directement des formations à partir d'un compte qui s'accumule chaque année. Et qui
en euros.
En euros et qui s'accumule à la Caisse des dépôts et consignations. Et dans une version ultérieure, d'ailleurs, ces formations seront notées par les utilisateurs comme un TripAdvisor dans le domaine du tourisme, par exemple.
C'est l'ubérisation de la formation ?
Non, pas forcément. Non, les organismes de formation continuent d'exister. Ils ne sont pas ubérisés du tout pour l'instant. Et on peut en attendre un marché de la formation peut-être plus efficace, plus innovant, peut-être à meilleur prix aussi, parce que le marché sera plus transparent.
Merci Bertrand Martineau, économiste de CSI Saint-Honoré, une entreprise de courtage. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct dans le journal de 8h ce matin.
Dans un peu plus d'une heure, ce sera à 9h30, première cotation pour la Française des Jeux. L'action est fixée à 19,90€. Pour les particuliers, elle est de 19,50€ et plus d'un demi-million de Français en ont réservé.
Vous en avez acheté, Bertrand Martineau, des actions Françaises des Jeux ?
Non.
Et vous, Mathieu ?
La privatisation va rapporter 2 milliards d'euros à l'État pour le financement d'un fonds pour l'innovation. Et c'est un franc succès populaire. La Bourse de Paris attend le coup d'envoi, Emmanuel Duteil.
Tout est prêt à la Bourse de Paris, habillée pour l'occasion aux couleurs de la Française des Jeux. Une telle introduction, c'est devenu rare. La cloche, qui ne sert plus tous les jours, va donc retentir à 9h30 au moment des premiers échanges. Plus d'un demi-million de particuliers à acheter des actions. C'est énorme quand on connaît la méfiance des Français vis-à-vis de la Bourse. Face à cette demande, tout le monde ne pourra pas en avoir. Mais le gouvernement a vraiment voulu servir en priorité les particuliers, assure le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire.
Tous les petits souscripteurs seront satisfaits parce que jusqu'à 2000 euros de demande, vous serez intégralement servi. C'est un vrai choix politique, privilégier les petits souscripteurs et privilégier les épargnants français plutôt que les institutionnels.
Et le capital va être très français entre l'État qui va garder 20%, les particuliers, les buralistes, les anciens combattants et les salariés. Environ 60% du capital sera aux mains des Français, affirme Bercy. Reste une grande inconnue, comment l'action va évoluer dans les mois à venir. Bruno Le Maire s'est voulu confiant. Pour lui, l'entreprise est solide, bien gérée et sur un secteur d'activité dynamique.
Emmanuel Duteil est donc coup d'envoi à 9h30 tout à l'heure.
Europe 1.
Dans un instant, l'onde de choc de l'affaire Epstein. Le prince Andrew dans la tourmente se retire de la vie publique. La couronne britannique pousse un ouf de soulagement. La suite du journal de 8h dans un instant.
Europe 1, il est 8h10. La suite du journal. Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk.
Outcast, ce mot à la une ce matin du quotidien britannique Daily Mail, banni. Le prince Andrew, le deuxième fils de la reine Elisabeth II, se retire finalement de la vie publique à cause de ses liens avec le milliardaire Jeffrey Epstein, aujourd'hui mort. Le prince est accusé de rapports contraints par une femme qui avait 17 ans à l'époque des faits.
Et c'est toute la famille royale qui s'en trouve soulagée et même plus, tout le monde à Londres le croit coupable, Johanna Chabas.
Pas une voix dans les rues de Londres pour défendre le prince Andrew. Tous sont ravis qu'il s'en aille. Anne est une fan absolue de la famille royale. Pourtant, elle ne supporte plus le deuxième fils de la reine.
C'est la honte de la famille royale. Et je pense qu'il a totalement déçu sa mère. Je pense qu'il savait exactement ce qui se passait. Et à mes yeux, il est coupable.
Le prince Andrew avait essayé de se défendre il y a moins d'une semaine dans une interview pour la BBC. Il a tout nié, mais pour tout le monde ici, il a manqué d'empathie envers les victimes et n'a pas été convaincant. Pour Liam, cette interview était une erreur.
Il s'est tiré une balle dans le pied. Les gens ne savaient pas à quel point il était horrible. Et puis là, il se met devant la caméra et il a montré à tout le monde qui il était vraiment. Il aurait dû laisser faire sa famille pour le sortir du bourbier, comme elle le fait habituellement.
Dans son communiqué, le prince Andrew promet de collaborer avec les enquêteurs. Pas de quoi convaincre Margaret de son innocence.
C'est le moyen parfait de passer pour celui qui soutient l'enquête alors qu'en fait, il cache ce qu'il a vraiment fait. Je trouve ça honteux, pour être honnête.
Elle espère que le nom de la famille royale ne sera pas trop terni par le prince. Elle ne croit maintenant plus qu'en un seul membre de la famille pour redorer leur réputation, le prince William.
Johanna Chabas, correspondante à Londres pour Europe 1.
Nous restons sur la scène internationale, direction les États-Unis pour évoquer la procédure de destitution de Donald Trump. Journée importante hier.
Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour.
Les démocrates attendaient beaucoup d'un témoin clé, l'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne, Gordon Sondland, l'homme qui pouvait confondre le président.
On est trahi par les siens, alors Donald Trump se méfie. défi, vu le nombre vertigineux de conseillers et de ministres qui l'ont abandonné ou qui l'a viré depuis 2 ans. Et hier, il a dit qu'il connaissait à peine l'ambassadeur Sondland, alors que celui-ci planchait devant le Congrès. Gordon Sondland est le premier témoin direct que les démocrates mettaient sur le grill. Il discutait en tête-à-tête avec le président de l'Ukraine, librement, et même vulgairement, ces milliardaires se parlant cru comme des copains de régiment.
Il peut donc citer le président et le compromettre.
Et il confirme que c'était donnant-donnant avec les Ukrainiens, qu'il devait enquêter sur Joe Biden pour obtenir une aide militaire. Avec Mike Pence et Mike Pompeo, ils leur ont mis le marché en main. Mais il reconnaît que jamais Donald Trump ne lui a ordonné de le faire. Au contraire, Donald Trump lui a dit « pas de donnant-donnant, je ne veux rien ». Gordon Sondland a financé $1 million la campagne de Donald Trump et il s'est ainsi offert une ambassade à Bruxelles pour 4 ans. C'est un ambassadeur amateur, comme il y en a en France, nommé par faveur du prince, au pôle ou ailleurs. Et devant le Congrès, il a réagi comme un diplomate professionnel qui donne dans ses télégrammes une prévision et son contraire pour n'être jamais pris en défaut. Il en faudra bien davantage pour justifier l'impeachment.
C'est sûr. Le regard international de Vincent Herouet, c'est tous les jours dans le journal de 8h. Merci Vincent.
400 000 exemplaires mis en vente pour le premier tirage. C'est plus qu'un concours. Hein. Écoutez bien, les amateurs de Blake et Mortimer l'attendent avec impatience. La parution demain du nouvel album, Le millième bras du Mekong.
C'est la 26e aventure des deux héros britanniques. Une aventure qui les emmène cette fois-ci en Chine. Et tout est vraiment réuni pour en faire un album à succès, comme nous le raconte Thierry Geffrotin.
De l'histoire, avec un grand H, du fantastique, de la science-fiction, cette nouvelle aventure de Blake et Mortimer réussit le tour de force de mêler habilement tous ces ingrédients, ce qui n'allait pas de soi. L'histoire en deux mots, nous sommes en 1949. Les deux héros doivent sauver Hong Kong, à leur colonie britannique, des attaques d'un des derniers seigneurs de la guerre chinois. Il leur faut aussi récupérer un document historique qui va changer le cours de l'histoire de la Chine. Blake et Mortimer en Chine, voilà une idée très originale. Yves Sant est le scénariste du millième bras du Mekong.
Aller en Chine était quelque chose que je trouvais très intéressant, d'abord parce que les personnages de Jacobs n'y sont jamais allés, qu'effectivement Hong Kong est encore une colonie britannique, donc ça donnait des bonnes raisons aux deux personnages de s'y rendre. Proposer un peu d'exotisme aux yeux du lecteur est une bonne chose aussi.
De l'exotisme, il y en a à foison dans cette aventure qui se déroule dans la Chine profonde. De l'exotisme et du fantastique. Entre des pandas très agressifs, des moustiques tueurs et des dragons qui se nourrissent d'une mystérieuse perle de vie, le lecteur va être servi pour son plus grand bonheur.
8h15, votre invité politique, Sonia.
François Baroin, le président de l'Association des maires de France, les maires plus que jamais plébiscités en cette période trouble. Et François Baroin, lui aussi plébiscité par les siens à droite. Bonjour François Baroin.
Bonjour.
A tout de suite sur Europe 1.